Allô?
Oui, Ramzi.
Ah,
Bonjour.
super.
Jérôme. Ouais.
Bouge pas 2 secondes. Je vais juste mettre le do not disturb. Comme ça, il n'y a pas de double appel.
Ok.
Attends. Voilà. Ça y est, c'est bon.
Eh ben oui, bonjour. Et puis, un grand merci de me faire l'amitié de participer au lancement de ce nouveau projet freeformmusic.com concernant justement ton parcours. En quoi la radio, la musique ont-ils été importants à tes débuts?
Bah, je pense que ça m'a permis en fait de gravir les échelons et de passer de la radio à la télévision. Je pense aussi que c'est important la radio parce que ça permet d'avoir, enfin, de construire une personnalité dans la mesure où on n'a pas l'image quand on fait de la radio. Donc en fait, faire passer un message, s'adresser aux gens, jouer la carte de la proximité. Je pense que c'est important de passer par la radio avant de faire de la télé. Moi, ça reste quand même, ça me manque la radio. Bah, le fait d'être aux
Ah oui.
États-Unis aujourd'hui, franchement, c'est vraiment ce qui me manque le plus. La radio, c'est de se retrouver dans ce studio, de pouvoir parler dans un micro, d'avoir cette espèce d'intimité, et en même temps de s'adresser à un public. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est assez magique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la radio m'a permis déjà bah, d'apprendre le métier, parce qu'il n'y a pas seulement que l'animation. Je suis passé aussi par la création publicitaire pendant plusieurs années. Donc ça m'a permis aussi de comment dire, d'apprendre à structurer
Travailler ta
une
voix,
pub. Voilà, travailler la voix, non, mais structurer une pub aussi, c'est-à-dire construire une publicité, c'est-à-dire à partir du brief, le brainstormer avec les clients. Donc ça, c'est important. La musique, moi, j'ai toujours été fan de radio depuis tout petit. Donc j'écoutais quasiment toutes les émissions. J'étais fan de George Lang même quand j'étais petit. Et c'est marrant parce que je me suis retrouvé en Lorraine sur une radio où George Lang venait nous rendre visite à Nancy. La musique, j'ai toujours baigné dans la musique. Ça a toujours été ma passion. J'écoutais tout, mais franchement tout, absolument, absolument tout. Et maintenant pour la petite anecdote, comment je suis arrivé en radio? En fait, donc je suis arrivé à Nancy pour faire des études de médecine et il y avait donc une radio FM qui venait d'ouvrir. On était à l'époque en fait des toutes premières FM
Qui n'avait
et je
aucun rapport
participe.
d'ailleurs,
Oui, voilà.
pour le coup.
Et je participais en fait à un jeu téléphonique à chaque fois. Bah, je reconnaissais les morceaux et puis un jour le directeur des programmes m'a pris hors antenne et il m'a dit, bah, écoute, t'as l'air de t'y connaître en musique. Et il m'a dit passe nous voir. Je suis passé le voir et là j'ai sorti le plus gros bullshit qu'il ait jamais eu. Je lui ai dit que j'étais DJ sur une radio d'université aux États-Unis. Voilà. Il m'a demandé en fait de lui donner une bande démo. Et là moi comme je vais aux États-Unis depuis que je suis petit en fait et que je passe mes étés en Californie, j'enregistrais toujours des cassettes des radios américaines et j'avais fait avec un pote de médecine qui avait une petite table de mixage. J'avais fait un montage où tout ce que je faisais, c'est que je répétais exactement ce que disait le DJ américain, du genre « Good morning, thank you for calling KQ Los Angeles, it's 7 a.m. and now », tu vois. Et puis ensuite, je mettais les jingles, mais tout ça à la pause, quoi. Je veux dire, c'était vraiment le truc amateur. Et il m'a pris, et il m'a fait confiance. Et on est toujours copains, hein, c'est assez marrant, quoi. Je veux dire, après tant d'années, on est toujours proches, on a des nouvelles régulièrement, on s'appelle… Donc voilà, donc ça a été le coup de bol. Mais
Une grande
bon,
école, quoi.
mais la meilleure école du monde, surtout quand tu commences et que tu as 17 ans en radio. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la plus belle des écoles.
À un moment, tu deviens chanteur par le biais d'une reprise d'un titre célèbre via le Ramsey J&N Gang. Toutefois, alors que la reprise rencontre un franc succès, un imbroglio avec le producteur ne te rendra malheureusement pas vraiment riche.
Alors, l'histoire, enfin, tu sais ce qu'on appelle ça un one hit wonder, c'est-à-dire qu'en fait c'est juste un tube, ouais, c'est un tube et au revoir. En fait, l'histoire, elle est simple, c'est que je faisais des remplacements comme DJ pour gagner ma vie, pour aussi bah, payer un peu les études de mon frère qui lui en fait a fini ses études de médecine et qui est chirurgien. Donc en fait je travaillais dans les clubs comme DJ, donc je faisais des remplacements. Et puis comme j'ai toujours été fan de rap, j'arrêtais pas de rapper sur les morceaux et tout. Et ben ce que j'ai fait un jour, c'est que j'ai pris la face B des Démons de Minuit du groupe Image et j'ai écrit un rap dessus. Et il se trouve que un soir, donc je mets les Démons de Minuit. mais je mets la version, la face B, donc la version instru, et je rappe en direct. Alors, t'imagines, on est samedi soir, il doit y avoir 1000 personnes dans le club. Et donc, les gens se demandaient ce qui se passait, et ils ont vu que je rappais en direct, donc les gens continuaient à danser, tout allait bien. Et puis, deux jours après, j'ai reçu, en fait, un appel de l'attaché de presse de la maison de disques, en fait, qui produit le groupe Image. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit « Est-ce que vous pouvez nous enregistrer ça sur une cassette ?» Donc, c'est ce que j'ai fait rapidement dans le studio de prod de la radio. Et je suis allé un mois plus tard au studio Polygon à Toulouse, c'est-à-dire là où le groupe Image a enregistré, pour enregistrer « Rams DJ & Gang », qui était en fait produit par la maison de disques, Farina, chez Warner, et mixé par Elvio Pieri, qui était à l'époque un remixeur italien. Donc voilà. Et ça a cartonné. Ça a cartonné. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que voilà, tout d'un coup, tu te retrouves numéro un au hit des clubs, devant Madonna, donc et devant Kool & The Gang. Et du coup, bah, plein de galas, plein de télé, enfin, c'est, je veux dire, c'était... et quoi, j'avais 19 ans, quoi.
C'est monté vite.
Alors, ouais, c'est monté très vite. Et ce qui est bien, c'est que le directeur des programmes de cette FM, Laurent, était aussi, à l'époque, mon manager, c'est-à-dire qu'on faisait les tournées et tout. Ça a été très bénéfique, parce que quand tu as 19 ans, tu te retrouves avec un titre où tu te retrouves en boîte, où tu as les gens qui applaudissent et tout, donc du coup, tu te prends pour une star, tu commences à choper la grosse tête, et lui était vraiment derrière en disant « tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes ». Et je pense que ça a été une très, très bonne leçon. Je suis content d'ailleurs que ça me soit arrivé à 19 ans et pas à 25, parce que ça m'a permis, en fait, de voir les choses plus. Il y a le truc où, je vais dire à un moment, tu sais, voilà, t'es frissonnant au top 50, tu es numéro 1 du hit des clubs, et puis après, ça commence à baisser, t'as moins de galas. Et à ce moment-là, tu t'aperçois que tous tes potes qui étaient tes potes sont plus tes potes. Et puis, il y a eu cette histoire avec la maison de disques où, j'ai signé, j'ai pas vraiment vu que le contrat était un contrat qui n'était pas un contrat français, mais un contrat suisse. Et où, c'était une reprise, donc en fait, je devais toucher uniquement sur les paroles et pas vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai rien touché. J'ai touché un peu sur les ventes. Et puis voilà, j'ai retenu ma leçon. Après, il n'y a plus rien eu parce que d'une part, j'avais une carrière télé qui m'attendait, et puis j'avais envie aussi de me débarrasser de cette étiquette de rappeur. Tu vois, encore une fois, c'était un one hit wonder, quoi. C'était un tube, quoi. Juste un tube. Donc, je regrette pas. Je pense que c'est une bonne leçon. Ça m'a permis de comprendre. Voilà, ça m'a permis aussi de comprendre comment ça fonctionnait dans l'industrie de la musique. Et c'est pareil d'ailleurs dans l'industrie du cinéma. Crois-moi, aujourd'hui, les contrats passent par des avocats. Je les relis 10 fois avant de les signer. Donc voilà, donc c'est une bonne école. Et puis j'ai quand même gagné de l'argent avec les galas. Ça m'a permis, comme je le disais, de payer les études de mon frère, qui lui est aujourd'hui chirurgien. Puis je me suis bien amusé. Franchement, je le regrette pas, et je pense que
c'est plutôt
que
cool.
Ça a été une super bonne expérience, bonne expérience. Mais moi, je me préparais aussi à l'étape suivante de ma vie. Voilà, je voulais faire de la télé.
Et là, donc, tu décides de repartir, enfin de partir aux États-Unis, et tu débutes une carrière de correspondant pour différentes chaînes d'information, et tu réalises également de grands reportages. Tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, alors avant les États-Unis, en fait, j'ai quitté la radio, donc Nancy, pour aller faire une école de journalisme à Paris. Et j'avais été en fait repéré, par le directeur de l'information de France Télévisions, qui m'a dit passe le concours de l'école de journalisme. Je l'ai passé et je l'ai eu. Ensuite, donc, j'ai fait mon école de journalisme en alternance. Ce qui était sympa, c'est que à l'époque, donc, la radio FM à Nancy était devenue Europe 2. Et donc c'était Europe 2 de l'Est, et Europe 2 à Paris m'a accueilli. Et ce qui était top, c'est que je faisais donc mon école de journalisme, encore une fois par alternance, et en même temps j'étais à la rédaction d'Europe 2. Donc j'ai tout appris sur le tas, et en même temps j'avais en même temps la théorie et la pratique. C'est pour ça que c'est génial de tout faire en alternance, parce qu'on met en application tout ce qu'on apprend à l'école de journalisme. Et puis voilà, en sortant de l'école de journalisme, donc je suis rentré à France Télévisions où là, bon bah j'ai fait des piges, j'ai fait du télématin. Ensuite, à travers une autre boîte de production, j'ai commencé à faire des grands reportages pour la 5. Bon là, je suis parti un peu partout. Tu sais, je parle plusieurs langues, j'ai plusieurs nationalités, donc je correspondais au profil. Plus j'ai été formé aussi pour tout faire, c'est-à-dire que je savais monter, je savais tourner, je pouvais écrire, je pouvais être face caméra. En plus, je pouvais travailler seul. Donc voilà. Donc je correspondais au profil polyvalent, idéal. En fait. Oui, absolument. Au profil idéal à cette époque-là, et je pense voilà, je suis arrivé au bon moment, au bon endroit, et donc cette boîte de prod m'a engagé pour aller tourner des grands reportages. Quand la 5 s'est arrêtée, c'est à ce moment-là en fait où Canal avait besoin de quelqu'un qui connaissait bien les États-Unis, qui connaissait bien Los Angeles, et pour aller en fait intégrer une émission sur Ciné-Cinéma, qui à l'époque s'appelait Hollywood 26, et donc ils avaient besoin de quelqu'un de polyvalent qui puisse tout faire aussi. Voilà, donc je suis arrivé en renfort, et je me souviens, je suis parti de Paris, j'ai laissé mon appart, et je suis arrivé à Los Angeles et 48 heures après, j'étais sur le terrain en train de tourner. Mais encore une fois, je connais bien LA, quoi. Je veux dire, je viens ici, j'ai une famille adoptive ici, je viens ici depuis que j'ai 12 ans. Je passe mes étés aux États-Unis, je bossais dans les restos, tu vois. Donc c'est une ville que je connaissais. Bon, je suis arrivé en tant que journaliste. Alors maintenant, ce qui est marrant, c'est que moi, je suis pas du tout journaliste cinéma. Ça n'a jamais été le cas. Sauf que quand on m'a envoyé ici pour être correspondant, on m'a envoyé sur un magazine cinéma. Donc on m'a dit tu vas couvrir le cinéma puisque le groupe Canal c'est aussi des chaînes cinéma. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à couvrir le cinéma. Bon, j'ai toujours été fan de cinéma depuis toujours. Je veux dire, mon père était fou de l'âge d'or d'Hollywood, donc je connaissais bien. Puis en plus venir à Los Angeles, enfin, je veux dire, tu vis dans la ville quand t'es petit. Enfin, je veux dire, tu passes tes étés dans la capitale mondiale du cinéma, de la musique et de la télévision. Voilà, donc c'était la transition la plus naturelle possible, je pense aujourd'hui.
Et justement, donc tu as couvert de grands événements. Lesquels t'ont le plus marqué à ce jour?
Bah, je pense que ce sont les Golden Globes, puisque je les présente en fait en direct sur Canal. Même si cette année, compte tenu de la crise sanitaire, c'est très compliqué. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Je pense que c'est les Golden Globes. Bon, déjà, je suis membre du jury des Golden Globes depuis. Ça fait 15 ans maintenant. Je vote pour les Golden Globes. Je suis le seul journaliste de la télé française qui vote en fait pour les Golden Globes. Et c'est génial de faire ça en direct. En plus, bon, on a une sorte de de complicité avec les stars parce que elles nous connaissent et franchement c'est fun de courir les Golden Globes. C'est fun parce que par rapport aux Oscars d'abord c'est un dîner, les gens picolent, il y a un bar au fond de la salle donc ils sont un peu plus ils sont un peu plus zen qu'aux Oscars et puis ça couvre le cinéma et la télévision, donc t'as quasiment beaucoup plus de célébrités qu'aux Oscars. Donc je pense que ça reste quand même les Golden Globes. Ça fait des années que je présente les Golden Globes et ça restera quand même mes meilleurs souvenirs.
Et t'as un souvenir peut-être qui te revient principalement peut-être?
Oui, c'est le jour où c'est marrant, c'est c'est le jour où Quentin Tarantino m'a craché à la gueule. Alors, je précise quand même. J'étais en direct et Quentin Tarantino, qui est toujours très, il est hyper actif, il parle à 300 km/h et tout. Et puis je suis plus en discuter. Puis il est parti dans son délire et tout et il m'a postillonné à la gueule et il m'a dit excuse-moi. Et là, Twitter s'est lâché en disant bravo Ramzy, le plus chanceux du monde. Je veux dire, Quentin Tarantino lui a craché dessus, mais au sens positif du terme. Non, c'était assez marrant. C'était vraiment assez marrant. Ouais.
Revenons à la musique. Quel artiste groupe est le plus cool devant et en dehors des caméras? Parce que tu as eu
Écoute, c'est comme je couvre beaucoup plus le cinéma que la musique. Dans ce cas-là, je vais prendre un artiste
sur les tapis.
Je vais prendre un artiste qui est à la fois dans la musique et dans le cinéma et dans les séries télé. Et c'est la star d'Atlanta. Tu vois, la star d'Atlanta. Tu vois, c'est Childish Gambino, tu vois, c'est Star Wars aussi. Franchement, il est extraordinaire, extraordinaire. Et c'est bon, bah c'est vraiment le mec que j'aime beaucoup. Hein, c'est Donald Glover, tu vois. Et tu vois, je t'ai dit, entre Childish Gambino, entre Star Wars, entre la série Atlanta, je trouve que c'est quelqu'un qui couvre tout et qui en même temps est différent quand il fait de la musique, du cinéma ou de la télé.
Et donc il est cool, quoi. Ouais.
Ouais, il est vraiment, tu vois, il est cool. Il y en a un autre qui est cool, mais tu vois, qui se méfie, et je peux comprendre aussi, c'est Justin Timberlake, tu vois, ça va, il est sympa, il est vraiment sympa, mais tu sens quand même qu'il est réservé. Alors que Childish Gambino, enfin Donald Glover, c'est quelqu'un qui, je veux dire, on dit toujours en anglais, what you see is what you get, c'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment à l'écran comme dans la vie, quoi.
Oui, parce que il y en a certainement beaucoup qui prennent le melon, hein, comme on dit en France.
Oui, mais bon, tu peux rien, hein, je veux dire, c'est voilà. Mais tu sais, hein, je veux dire, au niveau cinéma, les plus grandes stars, c'est celles qui sont complètement
vraies, quoi.
Bah oui, elles n'ont plus rien à prouver. Les Tom Hanks, il a plus rien à prouver, quoi. Tu vois, donc voilà. Et puis ils savent très bien qu'ils jouent de leur image, ils savent très bien que au moment de faire de la promo, c'est leur taf, tu vois, ils vont pas commencer à te prendre de haut parce qu'ils doivent faire la promo, tu vois, ils savent très bien qu'ils doivent vendre leurs produits, quoi.
Et donc concernant la musique, qu'est-ce que tu as dans ta playlist en ce moment qui tourne
en boucle ? Tu sais quoi, c'est un truc de fou parce que depuis, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que depuis, je sais pas, 2-3 semaines, je sais pas si c'est le confinement, je sais pas si c'est, tu vois, toute cette crise sanitaire, le fait, tu vois, que ça nous affecte quelque part, tu vois, ça affecte notre morale. Je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas de tourner en boucle George Michael, je te jure, hein, Fathers, j'écoute, mais c'est un truc de ouf. Et en fait, c'est une espèce de retour aux années 80. Avec George Michael, Father's Figure, qu'est-ce que j'écoute d'autre? Oui, il y a Tiny Dancer, tu vois, Elton John que je mets en boucle, Cars, Drive, l'autre jour, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Careless Whisper, et je me suis retrouvé à écouter, je suis en train de me souvenir, parce que c'est un truc de ouf, quoi, je me suis retrouvé à écouter, alors j'ai une enceinte connectée, tu vois, je me suis retrouvé à écouter Scorpion de Winds of Change. T'imagines un peu?
Bah, les années 80, c'était doré, quoi.
Oui, c'est ça, c'est peut-être ça aussi, tu vois, tu reviens en te disant, waouh, c'était une époque, c'était
la liberté.
C'était génial. Voilà, il y avait tout, quoi. Et je me retrouve depuis 3 semaines, alors que normalement, tu vois, de temps en temps, je mets sur la radio satellite, tu vois, dans la voiture, j'ai Sirius XM, de temps en temps, je mets 8 on 80s, qui est la chaîne qui passe les années 80, tu vois. Mais bon, ça me saoule au bout d'un moment, quoi, parce qu'il y a des morceaux, tu trouves qu'ils ont vieilli, quoi. Mais oui, voilà, ce matin, je me suis levé tôt, je sais pas pourquoi, j'ai mis Simple Minds. mais tu veux que je te dise une chose? Tu veux que je te dise une chose? Il y a aussi, je pense qu'il n'y a pas que moi. Quand tu regardes les séries télé aujourd'hui, tu prends Stranger Things. Quand tu prends, tu vois, il y a une espèce de retour aux années 80. Tu regardes Stranger Things, tu regardes un peu tout, et t'as les tubes des années 80 qui reviennent. Donc tu vois, il n'y a pas que moi.
Y compris dans le design, hein.
Y compris dans le design. Donc ça va, je suis pas trop bizarre. Je viens de me souvenir maintenant qu'il y a quand même une espèce de 80s renaissance.
Ouais, c'est factuel, c'est clair. Et si on revient donc aux incendies en Californie, le Covid, Trump et les élections, le monde est un peu devenu fou, non?
Ben, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est une année extrêmement, extrêmement bizarre, dans tous les sens du terme, que ce soit politique, au niveau de l'environnement, là, les feux, ça se calme un tout petit peu, mais il y a toujours ce feu, le Bobcat Fire, voilà, je me suis tapé quand même, tu vois, 2-3 semaines de couverture de feu, avec des trucs qui partent en fumée. Alors, c'est vrai qu'on, malheureusement, on a l'habitude ici en Californie avec les feux de forêt. Mais là, c'est assez particulier. Là, c'est assez particulier parce que là, il n'y a jamais eu autant de feux. C'est historique, quoi. Le nombre d'hectares, tu vois, les évacuations, toute la région des vins de Napa, de Sonoma, il y a quasiment, enfin, je sais pas, il y a 50% des vignobles qui sont partis en fumée,
ouais,
et le reste, enfin, je veux dire, avec tous les cendres, la fumée, enfin, je veux dire, ça a atteint les grappes de vin, ça a été le sujet que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, où en fait il y a des récoltes qui sont complètement foutues, notamment le Pinot Noir, enfin l'équivalent du Bourgogne si tu veux, et les récoltes sont foutues, c'est foutu parce que les grappes sont complètement imprégnées de fumée et de cendres, et du coup voilà, il y aura pas de fruit 2020 pour oui, voilà. Maintenant le Covid, la Covid, ça dépend comment on le dit. Écoute, on est en Californie. Et il se trouve que la Californie, c'est quand même l'État qui a pris les devants bien avant tout le monde, c'est-à-dire depuis le mois de février, avec le confinement. Il y a une responsabilité collective, contrairement à d'autres États qui s'en foutent royalement, genre la Floride, où t'as les taux, aujourd'hui, le taux de positivité est en train d'exploser. La Californie s'en est bien sortie. Là, on est de plus en plus dans des phases de réouverture. Depuis deux jours, par exemple, les centres commerciaux ont rouvert, les salons de coiffure ont rouvert aussi, tout ce qui est pédicure, manicure. Donc petit à petit, bon, les restaurants, c'est pas encore ça. C'est-à-dire que on peut pas encore manger à l'intérieur, mais tu sais, ici, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'objectif, si tu veux, c'est de relancer l'économie. Je te donne un exemple. Les restos, maintenant, peuvent empiéter sur la chaussée. Ah, donc, ils ont mis des espèces de barrières en béton. Empiéter sur la chaussée. Bon, d'un autre côté, on est en Californie. C'est vrai qu'il pleut rarement et c'est vrai qu'il fait beau. Pour pouvoir installer des terrasses et servir plus de monde.
Ah oui, un peu comme les dilemmes en France à l'heure actuelle, quoi.
Oui, sauf qu'en France, tu vois, oui, mais en France, c'est pas pareil en France. Là, j'étais à Paris il y a pas longtemps. Je viens de rentrer en fait, et tu vois que les restaurants, les restaurateurs tirent la gueule parce que bon, fermer les restos à 22h, en plus de ça, quand il pleut, ils peuvent pas mettre de table dehors, donc c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Ici, en fait, ils essayent vraiment de relancer la machine avec, comme je te le disais, installer des terrasses qui empiètent sur la chaussée. Et ce qui est bien, c'est que les gens, si tu veux, ne se plaignent pas en se disant « Attends, tu nous coupes là, tu vois, la moitié de la chaussée. » Non, ben, ils se disent « Voilà, c'est… » Mais bon, les gens, encore une fois, sont extrêmement prudents. Y a eu un moment où les jeunes allaient à la plage, ils s'en foutaient royalement et tout, mais les gens sont en général assez prudents, même trop prudents, c'est-à-dire que tu passes dans la rue, t'es avec ton masque et les gens s'éloignent, tu sais, quand tu passes. mais quand on voit les chiffres, tu vois, je veux dire, ce que les gens ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que quand ils disent ouais, la liberté, les anti-masques et tout, en fait, faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est pas le fait d'être contaminé, si tu veux, c'est le fait que les autorités ont peur de saturer les services de réanimation. C'est ça en fait, qui se retrouvent, si tu veux, avec des services de réanimation qui sont complètement saturés, encore une fois. Et c'est ça en fait qui fait le plus peur, c'est d'avoir les gens qui vont se retrouver à l'hosto.
Parce que le fait est, c'est que déjà la Californie est un État à part et avant-gardiste sur bien des domaines, mais il y a aussi un paradoxe chez vous, c'est que comme les Américains ont massivement rejeté l'Obamacare, les frais coûtent une fortune, donc si t'as pas une bonne mutuelle, t'es mort.
Ah bah complètement. Non mais c'est pas les Américains qui ont rejeté Obamacare, c'est le gouvernement qui a rejeté, c'est le vote.
Oui.
Oui. Donc ce qui se passe, si tu veux, c'est que ici, bon bah déjà faut savoir que 35% des Américains n'ont pas d'assurance maladie. Alors il y a un système de sécurité sociale qui s'appelle Medicare, mais en fait c'est pour les gens qui sont retraités. Et il faut cotiser pour ça toute sa vie, et ou alors c'est des gens qui sont très pauvres et qui peuvent bénéficier de ce truc. Mais il n'y a pas tout qui est couvert. Donc quand Donald Trump annonce que lui a été guéri du Covid en quelques jours et que voilà, si lui il a été guéri, bah faut pas se laisser aller. Faut comprendre quand même que d'abord que un, il était entouré de 12 médecins. que deux ils lui ont donné quasiment tous les produits. Bah, non, mais ils lui ont donné aussi tous les produits expérimentaux. Tu vois, donc voilà. Et donc si tu calcules, je veux dire, hein, le citoyen lambda peut pas payer 100 000 $ pour avoir ce qu'a eu Donald Trump. Voilà. Donc il y a ce problème là. Il y a ce problème là.
Parce qu'en même temps, donc c'est le président de la première puissance mondiale qui se prépare déjà quelque part à contester les résultats et qui est touché par le Covid et dont il a toujours dit que c'était fake, hein, en poussant les Américains par exemple à boire du détergent pour se soigner. Certains l'ont fait, hein, ils en sont morts. Même Hollywood n'aurait pas pensé à un tel scénario, quoi.
Bah, c'est-à-dire que si tu veux, la réalité dépasse la fiction, et c'est vraiment la réalité. Alors c'est un showman Trump, et en plus de ça, si tu veux, il je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'en fait, il dit ce qui lui passe par la tête. Voilà, il dit ce qui lui passe par la tête. D'un autre côté, ce qu'il veut lui, c'est tout simplement que les gens l'aiment lui. Donc en fait, c'est le culte de la personnalité. C'est vraiment le culte de la personnalité. Et puis, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. Et donc, il est capable de tout dire, de tout et n'importe quoi, pour ne pas perdre. Donc voilà, au début, c'était la pandémie, ça n'existe pas, c'est du fake. Ensuite, c'est rien, c'est une petite grippette. Après, c'est pas les Américains, c'est les Chinois, ils vont payer. Après, c'est oui, j'ai eu le Covid, mais je suis fort. Oui, regardez, alors avec son, en plus ce clip là où il rentre à la Maison Blanche, le truc très hollywoodien avec la musique. Alors maintenant que tu dis que Hollywood n'aurait pas pensé à un tel scénario, c'est vrai, et c'est pour ça que certaines séries se sont arrêtées, parce que ça va tellement loin avec Trump que les scénaristes n'arrivent même plus à suivre. C'est-à-dire, je prends par exemple la série VIP, qui est une satire en fait de Washington, enfin une satire, mais c'est-à-dire que c'est la réalité exagérée de Washington. Bah, ils se sont aperçus aujourd'hui que c'était tellement, c'est-à-dire ce qu'ils écrivaient était tellement en dessous de ce qui se passe à Washington que finalement ils ont décidé d'arrêter. Voilà.
Ouais. Parce que il y a certains disent en fait qu'il est assez bien binaire, c'est-à-dire qu'il classe les choses en oui ou non, quoi. Voilà, lui c'est assez simple, hein, pour lui les choses.
Oui, c'est ça. Et puis il faut pas le contredire. Là, par exemple, voilà, donc d'où la polémique autour de l'équipe médicale qui le traite et qui donne des conférences de presse et qui donne des réponses complètement évasives et vagues. Je veux dire, quand un journaliste pose la question au médecin du président en lui disant écoutez, donc quel est son état de santé, est-ce qu'il va bien, et que le médecin répond bah regardez sa vidéo, regardez ses tweets, quoi. T'as tous les spécialistes en épidémiologie, tous les infectiologues qui vont dire attendez, excusez-moi là, c'est pas une réponse de médecin, c'est quoi ce délire?
Exact.
Oui. Voilà. Donc, voilà. Mais d'un autre côté, il faut se mettre à la place de tous ces gens-là qui travaillent pour Trump. C'est quelqu'un qui déjà passe sa journée à tweeter, à regarder la télé, et c'est quelqu'un, c'est le président des États-Unis. Donc en fait, à tout son staff, il dit c'est comme ça et pas autrement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu dis oui. Tu dis oui. Tu peux rien faire. Oui, voilà. Donc, ils ont peur de lui parce qu'il est capable de pousser une gueulante et de dire dégage. De toute façon, ce qu'on a remarqué, je veux dire encore une fois, c'est pas une critique de Trump, c'est un constat. On a remarqué une chose, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de descendre même ses propres secrétaires d'État, enfin l'équivalent de nos ministres.
Oui, on l'a vu.
Et là, par exemple, il critique tout le monde. Il critique tout le monde. Dès qu'il n'est pas content, il critique.
Ouais. Voilà. C'est clair. Je reviens à ton parcours. Si je résume entre guillemets, donc animateur radio, DJ en club, chanteur, journaliste et correspondant, j'ai envie de dire « Sky is not the limit ».
Bah, tu sais, ce qui est extraordinaire avec le métier qu'on fait, c'est que tous les jours, c'est nouveau. Donc, en fait, je sais pas, l'autre jour, mon fils m'a dit, mais comment ça se fait, je travaille 12-14 heures par jour. Il me dit, comment ça se fait que tous les matins, quand tu te lèves, t'es content d'aller travailler? Et ben, je lui dis, écoute, j'ai une chance énorme. C'est que, un, j'ai toujours voulu faire ce métier, depuis tout petit. C'est vraiment le seul métier que je voulais faire depuis tout petit, quoi. Depuis l'âge de 8 ans. C'est exactement ce que je voulais faire. J'ai dit, tu te rends compte? C'est-à-dire qu'en fait, je me lève le matin et je fais ce que j'aime, je suis payé pour, et ça
C'est
m'embête
nouveau
pas de
chaque jour,
bosser
quoi.
quatre.
Ouais.
Oui, tous les jours, enfin, je veux dire, tu te rends compte, je veux dire, c'est l'actualité, elle change tous les jours, c'est passionnant, tu apprends des choses et tu es tout le temps en train d'apprendre. Il y a autre chose aussi, c'est que j'étais formé en télé, on m'a dit que on n'arrive jamais, en fait. On n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé parce que il y a toujours une étape supplémentaire dans la vie, parce qu'il y a toujours une étape professionnelle à laquelle on doit penser. Et on m'a donné ce conseil, on m'a dit, il faut toujours anticiper. Donc, je travaille toujours sur l'anticipation, tout le temps. C'est-à-dire, je réfléchis dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et puis bon, j'ai aussi d'autres activités dont je ne parle pas forcément parce que ce sont des activités en coulisses. Par exemple, c'est moi qui produis tous les making-of des pubs d'Espresso pour Georges
Ah
Roulet.
ouais.
Donc
Ah
oui,
ouais.
donc voilà, j'en suis à ma 5e publicité. Donc voilà, c'est des tournages de 3 jours. On part à 2 caméramans, je tourne aussi, on fait des interviews et ensuite, si tu vas sur le site de Nespresso, tu as tous les reportages en coulisses, toute la partie stratégie réseaux sociaux. Voilà, donc ça, si tu veux, ça fait partie aussi d'une de mes activités. Donc du coup, bah, je suis community manager pour les Golden Globes. Donc en fait, je m'occupe aussi de toute la partie marketing pour les réseaux sociaux. Donc tu vois, c'est aussi, ça te donne une approche. Mais tout est relié, hein. Je suis rédacteur en chef, mais à distance pour une chaîne en Polynésie française où j'ai une émission aussi. Donc en fait, tous les jours, je suis, tu vois, en communication directe au niveau de la rédaction, donc au niveau de l'encadrement. Donc tu vois, je consulte pour le JT, je réécris avec eux le journal. Donc là, si tu veux, c'est vraiment un travail d'encadrement, mais c'est une bonne gymnastique quand tu es journaliste, c'est-à-dire que c'est ce JT-là sur lequel tu travailles, que tu construis, et ben ça te permet aussi de t'améliorer au niveau de l'écriture, ça te permet aussi d'aller plus vite parce que tu écris tous les jours. Donc voilà, il y a ça, je produis des documentaires, voilà, donc t'inquiète pas, voilà, donc je fais plein de trucs à côté, mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il faut anticiper. Il faut se dire qu'est-ce qui va se passer dans 2, 3 ans, comment les choses vont changer, comment s'adapter. Je prends l'exemple, par exemple, du journalisme aujourd'hui. Je veux dire, tout est instantané. C'est-à-dire que quand on m'appelle pour faire un duplex, par exemple, sur CNews, sur les feux, okay, quand je passe, moi, dans la matinale à 6h10 ou 6h15 du matin, il est 21h pour moi, bah, les gens qui se sont levés, ils ont déjà toute l'info. Ils ont Twitter, ils ont, tu vois, ils ont les alertes qui.
Oui, ça va très très vite.
Ah, voilà, ça va super vite. Donc, comment approcher, si tu veux, un duplex pour non seulement parler du factuel, mais en plus. Dire, enfin, ou trouver ou dénicher des choses dont les gens n'ont pas encore entendu parler. Et c'est là, si tu veux, tout le challenge aujourd'hui. C'est de pouvoir se différencier du factuel que tu reçois, puisque de toute façon, tu l'as, toi, le factuel sur ton smartphone. Tu vois? Et là, c'est un travail de recherche, c'est un travail aussi de préparation, c'est un travail où tu dois appeler, tu dois te déplacer, tu dois aussi trouver des angles qui ne sont pas forcément des angles que les alertes ont traités, et qui restent quand même, et c'est là, si tu fais la difficulté du travail de correspondant, et là je parle pour la France, c'est qu'il faut d'une part que tu sois que tu aies un regard américain, mais en même temps un regard français, et ce regard français, il faut qu'il soit un regard de proximité. Parce que là aussi, pour des raisons de marketing et d'audience, il faut que tu connaisses aussi ton cœur de cible. C'est-à-dire, il faut que tu saches à 6h10 du matin qui regarde CNews. Quelle est la tranche? Tu vois, quelle est la tranche d'âge? Est-ce que ce sont des CSP+? Est-ce que ce sont des CSP-? Est-ce que c'est plus Île-de-France ou c'est plus Provence? Donc, tu vois, et c'est ça aussi qui est génial. Et c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire qu'en même temps que tu écris, tu penses à tout ça.
Et justement, en parlant de ça, le futur pour toi, avec les médias sur la planète, comment il va s'articuler, sachant qu'aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles, il y a des algorithmes qui créent de la news, comment tu vois ça dans le futur, à plus ou moins long terme?
Bah, je pense qu'il y aura toujours besoin d'une personne physique pour aller sur le terrain. Pas seulement pour vérifier l'info, mais pour pouvoir, sur place, tu vois, donner son regard ou juste observer et donner son observation, puisque de toute façon, nous, nous relions l'information. Moi, je ne suis pas éditorialiste, je ne suis pas critique de film, donc moi, mon travail, c'est de donner une information. Donc, en fait, être sur place, c'est sentir l'ambiance, c'est voilà. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. On ne pourra rien faire contre les fake news, de toute façon, je veux dire, c'est comme tu dis, avec les algorithmes aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on n'y peut rien. Mais on restera quand même, peut-être qu'on est une espèce en voie de disparition, ce qui m'étonne quand même, mais on aura toujours besoin de quelqu'un pour pouvoir
vérifier.
Vérifier.
Valider.
Tu sais, oui, vérifier ou même donner notre propre information, je veux dire, ce qu'on voit sur le terrain. Donc, maintenant, je ne sais pas si c'est une bonne comparaison, quand tu prends aujourd'hui l'industrie automobile où tout est robotisé. Bah oui, tout est robotisé, mais il y a quand même quelqu'un au-dessus pour pouvoir appuyer sur le bouton.
Ouais.
C'est un peu ça. Et puis, peut-être qu'à un moment, tu as la machine qui perd la boule et que tu as besoin de la remplacer par un être humain. Voilà, donc voilà, un bug, voilà, exactement. Tu as besoin d'un reset. Et le reset,
Bah écoute, dernière question pour aujourd'hui. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui rêvent de tous ces métiers que tu as exercés et que tu exerces toujours pour certains d'entre eux?
Bah écoute, je ne sais pas si je peux donner des conseils. Je dirais juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut être polyvalent. Il faut vraiment être polyvalent. J'ai appris par exemple qu'une chaîne de télé, une chaîne d'information en France, sur ces chaînes locales, c'est-à-dire Paris, Lyon, Marseille, ils sont en train de travailler sur un système où, en fait, il n'y aura plus de réalisateur, il n'y aura juste qu'un présentateur qui sera assis et qui appuiera sur les boutons pour faire marcher la caméra, le prompteur, et envoyer les sujets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez bizarre. C'est-à-dire que ce n'est pas une avancée, mais c'est plutôt une régression, parce que moi, ça me rappelle les débuts de la FM où on faisait tout nous-mêmes. On balançait, tu vois, on balançait le disque, on balançait la cartouche pour la pub, on travaillait ce qu'on appelle en self, en self operate. Et maintenant, ces chaînes-là, si tu veux, pour des raisons de coût, vont se lancer dans ce one man band, tu vois, ce qu'on appelle en anglais le one man band, c'est-à-dire qu'en télé, tu vas te retrouver comme en radio. Donc, le mieux, c'est d'être polyvalent. De temps en temps, j'ai des stagiaires. En général, c'est des stagiaires de Sciences Po qui viennent faire leur 6 mois de master ici. Et à chaque fois qu'ils viennent me voir pour me dire, voilà, j'aimerais bien faire un stage, je dis, pas de souci, tu nous accompagnes. Et puis avant, bon, si tu veux, on discute, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ah, moi, j'ai envie de présenter une grande émission avec des débats. Alors moi, je me vois bien en train de faire un talk show et tout. Et je dis, ok, bah demain, tu prends la caméra et tu apprends à tourner. Ah oui, mais j'ai pas besoin. Si, tu vas prendre la caméra, tu vas apprendre à tourner et je vais t'apprendre à monter. Tu vois, parce que il faut être polyvalent. Parce que même si tu présentes un talk show, même si tu présentes les news, il vaut mieux. Et de plus en plus, il vaut mieux avoir fait du terrain, il vaut mieux avoir connu, si tu veux, l'ambiance du terrain pour ressentir les choses, pour pouvoir travailler ce qu'on appelle sur tes pieds, pour pouvoir analyser sur le moment, pour pouvoir, tu vois, réagir, pour pouvoir poser les bonnes questions. Sinon, tu te retrouves dans une situation où quelqu'un va te faire des fiches et tu vas poser des questions que quelqu'un va t'écrire. Et on est en train de voir ce genre de choses disparaître. Donc moi, mon premier conseil, c'est il faut être polyvalent. Il faut vraiment savoir tout faire. Tout faire. Parce que le jour où tu as monté ton propre sujet, ce qui arrive de plus en plus, tu as intérêt à savoir monter et à savoir écrire. Mais de toute façon, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aujourd'hui, il faut bien se dire une chose, c'est que, attention, si vous voulez choisir le journalisme, réfléchissez, mais 10 fois avant de choisir ce métier. Parce que, 1, les piges baissent de plus en plus. 2, les piges sont limitées pour chaque chaîne. 3, la vie coûte cher. Donc, il faut vraiment réfléchir avant de choisir le journalisme. Il faut vraiment réfléchir.
C'est clair.
Et puis, chaque année, y a des centaines d'étudiants qui sortent d'écoles de journalisme et qui ensuite ont du mal à trouver du boulot. Je lisais un article il y a une semaine sur le nombre de journalistes qui ont essayé pendant 1 an, pendant 2 ans, qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts et qui finalement ont tout abandonné et qui se sont reconvertis dans d'autres métiers en se disant, tu sais quoi, laisse tomber. Donc c'est prestigieux, c'est vrai que c'est sympa, C'est vrai que c'est cool, c'est vrai que c'est passionnant, c'est vrai que faire de la télé, mais faut bien réfléchir avant de se lancer dans le journalisme, parce que le métier a énormément changé
Évolué.
et de plus en plus, et je pense qu'il y a la conséquence aussi de la crise sanitaire, et de plus en plus, on est en train de se diriger vers des réductions.
Le budget, ouais.
Tu sais, ça fait 20 ans qu'il y a des réductions budgétaires, mais là, non seulement des réductions budgétaires, mais des plans sociaux. Voilà, et aujourd'hui, recruter, c'est pas vraiment dans l'optique des grands groupes.
Malheureusement, ouais. Ok, eh ben, écoute, encore un grand merci à toi
Là, c'est
pour
moi.
cette interview très intéressante. Comme on en parlait, l'actualité mondiale elle est bien compliquée en ce moment. Il faut rester à l'abri de ce virus et puis ben, et continuer à avancer tant bien que mal.
Oui,
Alors
absolument.
je dirais ben, stay safe et puis keep up the
Voilà.
good job.
Merci. Merci, Jérôme. OK. Merci
Merci à
beaucoup.
toi,
À très
Andy.
vite.
À
Merci.
bientôt.
Bye.
Bonne soirée, au
Bye.
revoir.